On va étudier la Bible et après on peut prier selon ce qu'on a vu dans la Bible. D'accord? Je commence par une question. D'accord? Quel prophète a dit cela? Je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Quel prophète l'a dit? D'accord. Bon. Il vient de quelle alliance? Quel testament? L'ancien. D'accord, on commence. C'est super. D'accord. C'est quel? Est-ce que vous avez une idée? D'accord, bon, très bien. C'est Balaam, dans Nombre 22, d'accord. Si on commence par la citation, on ne pense pas à Balaam normalement. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce que Balaam, c'est un homme assez compliqué, n'est-ce pas? Son histoire est complexe et souvent, ça nous rend un peu... On dit, bon, Dieu, c'est un prophète, c'est pas un prophète... Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, ce soir, ce que je veux faire, c'est qu'on regarde la vie de Balaam, mais pas exactement dans son contexte de rédemption, hein, l'histoire de rédemption, mais comme un exemple d'une vie compliquée par la perte de simplicité. D'accord? Parce que quand nous lisons ce passage dans son contexte, on voit que Dieu, il a promis quelque chose à son peuple. Vous aurez un pays. Vous deviendrez quoi? Une nation. Et c'est par vous que toute la terre sera bénie, et surtout à travers un descendant de bon, Ève, et après Noé, et après Abraham, et après Isaac, Jacob, et c'est Balaam qui nous dit, il viendra du tribu de Juda. Ça, c'est le contexte qui nous donne un peu l'idée de ce qui arrive dans l'histoire de la rédemption. Mais si on regarde seulement cet homme, bon, je l'ai lu ce matin, hier, et ce matin, j'ai commencé à réfléchir. Ici, c'est un homme qui aurait pu avoir une histoire très, très simple. Le roi envoie des princes, il pose une question. Est-ce que vous pouvez venir pour maudire le peuple d'Israël? Balaam dit, Dieu, est-ce que je peux y aller? Dieu dit non. Balaam dit non, je ne peux pas aller. Et c'est fini, maintenant on continue avec l'histoire. Mais sa vie était compliquée par le fait qu'il a perdu la simplicité. Mais c'est quoi la simplicité? D'accord? Il faut bien définir les termes, n'est-ce pas? Donc on va commencer avec la signification de simplicité comme je veux l'utiliser maintenant. Souvent, on dit quelqu'un qui est simple, c'est un peu... Bon, il est crédule, hein, la crédulité. Il y a un manque de jugement. Il ne peut pas discerner entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. D'autres fois, on dit quelque chose qui est simple, c'est facile à comprendre. Et la troisième signification, c'est la signification que je vais utiliser ce soir, c'est une qualité de ce qui n'est pas composé ou décomposable. C'est-à-dire, ça c'est un peu difficile, mais par exemple, si on dit quelqu'un est simple, souvent ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y a pas de duplicité. N'est-ce pas? D'accord, il y a un livre qui est intitulé, c'est un livre russe, qui est intitulé l'idiote. D'accord? C'est un homme qui n'a pas de la duplicité dans sa vie. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Il accepte tous comme c'est la vérité. Et on dit, bon, ça c'est la crédulité, mais souvent la crédulité, on ne veut pas être comme ça parce qu'on sait que le monde est rempli de duplicité. Mais une personne qui est simple, on peut dire, c'est une personne qui n'est pas composée. Il n'y a pas deux côtés différents. Quand il parle à l'église, il dit une chose. Quand il est au bureau, il dit une autre chose. Ça c'est la signification que je veux dire par la simplicité. Et je pense qu'on peut voir dans la Bible cet homme qui s'appelle Balaam, qui a eu une vie très très compliquée parce qu'il a perdu la simplicité. C'est-à-dire, il avait deux buts dans son cœur. Et donc, ça, c'est la signification de simplicité que je veux dire. Et je veux utiliser la définition un peu que Jésus nous donne, d'accord? Quand il a dit la lampe du corps, ça, c'est le Darby, la version Darby, d'accord? La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est simple, bon, ça veut dire quoi? Ce n'est pas complexe? Non, Jésus, il savait que l'œil est très complexe. Mais il voulait dire c'est une pensée, c'est fixé sur une seule chose. Ton corps tout entier sera plein de lumière. C'est la simplicité que dont je veux parler ce soir. Donc, Balaam, je pense tous voir. Bon, c'est une histoire assez longue, donc on ne peut pas lire les trois chapitres. Mais on va regarder quelques versets. Donc, on commence en Nombre 22. Et l'histoire, c'est frappant quand on lit toute l'histoire, tout le récit à la fois. Mais on voit que cet homme est un homme assez compliqué parce qu'il y a un côté très positif de la vie de Balaam, n'est-ce pas? Par exemple, chapitre 22, le verset 8, il prie à l'Éternel. Il parle à l'Éternel. On peut dire aussi, il obéit à Dieu. Chapitre 22, le verset 13. Balaam se leva le matin, il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » D'accord, il dit d'accord. Dieu a dit ça, c'est ça. Bon, ça c'est positif. Il dit qu'il ne rien faire, qu'il ne peut rien faire sans Dieu, le verset 18. Où il dit, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. » Ça, c'est un peu comme ce que Michée a dit, le prophète Michée a dit. Au roi, quelqu'un a dit, tous les autres prophètes disent les bonnes choses pour le roi, il faut que tu fasses la même chose. Et Michée, il a dit quoi? Non, je dirai ce que Dieu dit, et c'est tout. Bon, ça c'est positif. Il appelle, verset 18, l'Éternel, mon Dieu. Le verset 18, il dit, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Bon, on ne sait pas s'il montait une croix, mais il a dit au moins, mon Dieu. Ce n'est pas votre Dieu, ce n'est pas le Dieu d'univers. Il a dit, le Dieu à moi. Un peu comme il est un serviteur de Dieu. Le verset 34, il confesse son péché. 22, 34. L'ange du Seigneur est là et Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché car je ne savais pas que tu t'étais placé au-devant de moi sur le chemin. » Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. D'accord? C'est un peu comme il est souple devant le Seigneur. Et il n'annonce que la parole de Dieu, 22:38. Balaam dit à Balak, « Voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit ? Je dirai, quoi que ce soit, je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Et dernièrement, il bénit le peuple d'Israël malgré le souhait du roi. Et le roi, il a dit, « Bon, toi, tu as perdu des richesses à cause de ce que tu as fait. » Bon, imaginez-nous, hein, si nous perdons quelque chose à cause de notre obéissance à Dieu, nous dirons quoi? Nous dirons, « Wow, c'est difficile, mais ça, c'est positif. Hein? » Donc, on lit ces chapitres, on dit, « Bon, le côté positif de la vie de Balaam, c'est pas mal. Il a fait pas mal de choses qui sont bonnes. » Mais c'est compliqué, parce qu'il y a un côté négatif aussi. Par exemple, 22:13, d'accord? Il semble qu'il laisse ouverte une porte fermée par Dieu. Le verset 13, peut-être on peut lire aussi le verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Quelle est la raison qu'il ne peut pas maudire le peuple de Dieu? Ils sont déjà bénis. Mais qu'est-ce qu'il dit aux gens? Cela va, le matin, il dit au chef de Balak, « Allez dans votre paix, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » D'accord, ça c'est vrai, mais quand il n'a pas dit « Ils sont déjà bénis », est-ce qu'il a laissé la porte ouverte pour eux de penser « Bon, peut-être il veut plus d'argent. » Parce que qu'est-ce qui arrive après? Le roi envoie une autre mission de personnes plus importantes qui disent « Vous pouvez avoir plus ». En fait, c'est un chèque blanc. Hein. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Bon, j'ai mis « sembler » parce que ce n'est pas exactement clair. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il essaie de jouer les deux côtés en même temps? Je serai fidèle à Dieu, mais vous pouvez penser peut-être qu'un peu plus d'argent. Hein. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il cherche une réponse plus convenable à ses désirs. Chapitre 22:19. Ce matin, quand je l'ai lu, j'ai dit, je vais lire. « Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel dit, me dira encore. » J'ai dit, pourquoi encore? Est-ce que Dieu a laissé un peu de place pour un changement? Qu'est-ce qu'il a dit la première fois? Au verset 12. « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Point. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour trouver des lacunes, peut-être une autre façon de dire, peut-être Dieu peut changer son avis. Et en fait, quand j'ai lu encore, je pensais, il cherche une réponse plus convenable à ses désirs. Bon, pourquoi je le dis? Parce qu'on continue avec l'histoire. Il poursuit un chemin précipiteux, irréfléchi. Le verset 22, chapitre 22:22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse. Et ses deux serviteurs étaient avec lui. Et on continue avec l'histoire et on descend jusqu'au verset, c'est pas le 22. Euh, le verset 32. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. » C'est une locution en hébreu qui est assez difficile, mais l'idée, c'est un peu comme mon fils Thomas marche, d'accord? Quand il est sur une colline, hein, quand il descend pas avec soigneusement, hein, avec la caution. Il descend dans n'importe quelle manière et il est toujours un millimètre de désastre, franchement. Et il fait comme ça et comme ça et comme ça. Il n'a que 3 ans. Et c'est l'idée derrière le mot. Et quand l'ange vient pour dire, je te résiste parce que je vois que tu suis un chemin selon cette traduction, le verset 32, qui mène à la perdition, c'est un chemin irréfléchi. Hein. Il n'a pas bien réfléchi ce qu'il fait. Ça me fait penser que le problème est dans le cœur de Balaam. Qu'est-ce qu'il fait? À mon avis, il a quelque chose qui est plus convenable à ce qu'il veut que ce que Dieu veut. Et on continue. Hein. Il semble se rebiffer contre la volonté de Dieu. Les versets 20 et 35 du chapitre 22 sont presque pareils. Il dit au verset 20, « Tu feras ce que je te dirai. » Il répète au verset 35, « Mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Ça me fait penser quelque chose. L'ange de l'Éternel a des doutes sur Balaam. Pourquoi il doit répéter? D'accord, tu peux aller, mais tu dois dire ce que je te dis. Et il l'a dit 2 fois. À mon avis, c'est parce qu'il savait que dans le cœur de Balaam, il y avait un autre désir. Il n'était pas simple. Il n'avait pas le désir de Dieu dans son cœur. Il n'avait pas le but de Dieu. Il avait un autre but. C'était son propre désir. Et il faut sauter quelques chapitres, d'accord? Parce qu'à la fin, il est un peu comme l'héros. Hein? L'héros. Au chapitre 24, Balaam se leva, il donne des oracles. Balaam se leva, 34, 25, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. On dit, d'accord, l'homme de Dieu était fidèle. Mais il y a plus, l'histoire continue. Hein? Parce que 25, on voit la rébellion d'Israël avec Baal-Péor. Et pourquoi ils sont tombés dans cette tentation? On trouve au chapitre 31. D'accord? Chapitre 31. Pardon. Et le verset 16. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de qui? De Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Ah bon, maintenant on voit le fruit de la racine qui se trouve dans le cœur de Balaam. Tout au long de l'histoire, il avait dans son cœur de la duplicité. Oui, d'accord, je ne peux pas faire ce que Dieu ne permet pas, mais je veux. Je ne peux pas dire ce que Dieu ne permet pas, mais bon, je veux dire d'autres choses. Et en fait, on voit en Deutéronome 23, je pense, Deutéronome 23 et le verset 5, un passage qui nous éclaire un peu. On commence par le verset 3. Deutéronome 23, 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Péthor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Ça signifie quoi? Peut-être Balaam a essayé de maudire le peuple de Dieu, mais c'est l'Éternel qui a changé les choses. Ce qu'on voit, c'est un homme qui est complexe. Il a une vie très, très compliquée parce qu'il avait de la duplicité dans sa vie. Il voulait être un homme qui obéir, prétendre au moins obéir Dieu. Je ne peux pas dire ce qu'il ne permet pas. Mais dans mon cœur, je veux maudire ce peuple. Il veut pas aller si Dieu ne le permet pas. Mais qu'est-ce qu'il a dit? En fait, je veux y aller. Et je vais demander encore une fois. Et on voit qu'on a un homme avec un côté positif et un côté négatif. Une vie très compliquée. Et on peut résumer le chemin de Balaam comme ça. Balaam professait d'être lié par la parole de Dieu. Il ne peut pas faire autrement. Et Balaam semblait obéir en cherchant une échappatoire, une lacune. D'accord? C'est-à-dire, c'est comme les enfants qui on donne un commandement à la maison et tout de suite ils posent des questions pour trouver une autre façon de faire leur volonté et pas la volonté de leurs parents. Est-ce que ça arrive parfois? Oui, ça arrive parfois. Balaam, à la fin, a contredit d'une manière flagrante la volonté de Dieu. Il n'a pas maudit le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bon, je sais, si vous faites ça et ça, ils vont tomber dans le péché et leur Dieu va les punir. Vous aurez le même résultat, mais par un autre chemin. Ça, c'est Balaam. Donc, quel est l'ennemi et la nature de la simplicité? D'accord, on veut penser à la simplicité. Si on regarde sa vie, on peut dire que l'ennemi, mais aussi la nature de la simplicité, c'est quoi? En Apocalypse 2, 14, on va commencer à la fin et travailler vers le... il y a trois citations ou références dans le Nouveau Testament. Apocalypse 2, 14. Nous lisons. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Donc, ça ne donne pas plus, franchement, plus d'informations. On sait déjà ce qu'il a fait. Il a donné des conseils. Jude, le verset 11, c'est une autre référence à Balaam. Jude 11, nous lisons. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Bon, ça n'ajoute pas trop de choses pour nous non plus. Mais en 2 Pierre chapitre 2, le verset 15, nous trouvons un passage qui nous aide un peu ici. C'est quoi la simplicité dans la vie? Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. Et on arrive à la nature de la simplicité, mais aussi l'ennemi de la simplicité. La nature, c'est l'amour. On est simple quand on aime une seule chose, une seule personne, on peut dire. Donc, et ça, c'est, je pense que ça, c'est assez clair, n'est-ce pas? Un homme qui est simple, s'il est marié, c'est un homme qui aime sa femme et seulement sa femme. Il n'aime pas d'autres femmes avec sa femme. Et ici, on voit que Balaam a eu une vie très compliquée et complexe parce qu'il avait l'amour pour plusieurs choses. Plusieurs choses. Il voulait avoir de la richesse, prestige peut-être, standing dans la société. Mais il voulait aussi servir l'Éternel et avoir la bénédiction de l'Éternel. Il était un homme très complexe parce qu'il avait deux objets de son amour. Et en fait, Jésus nous enseigne quoi? On ne peut pas avoir deux objets de l'amour. On aime une seule chose, soit Dieu, soit maman. C'est ce qu'il dit. Parce que si on aime un maître, on haït l'autre maître. Il faut choisir toujours. Et ça arrive même pendant nos vies quotidiennes. Un homme ne peut pas aimer deux femmes. Il choisit toujours entre les deux femmes. Et ce qu'on arrive à voir, c'est que la simplicité dans la vie est une question d'amour. Qui j'aime, que j'aime, qui j'aime. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je aime le monde, moi-même, ma propre gloire et tout cela? Bon, quelques signes d'un manque de simplicité. Comment on sait si on a un manque de simplicité dans nos propres cœurs? Est-ce qu'il y a une hésitation de fermer définitivement une option clairement interdite par Dieu? Alors, si je garde toujours cette espérance, peut-être cette option n'est pas mauvaise. Bon, dans la sphère relationnelle, j'essaie de réfléchir. Le mariage avec un non-croyant, peut-être ça peut être OK, parce que je veux être marié. Le divorce, une personne qui n'est pas contente dans son mariage peut garder toujours cette idée. Peut-être le divorce est OK pour moi. Les relations sexuelles hors de mariage, la familiarité avec quelqu'un qui n'est pas un époux, une épouse. Désobéissance aux parents. Hein. Les enfants peuvent garder cette espérance. Peut-être une fois, Dieu dira, c'est OK, tu peux désobéir tes parents. On garde cette espérance. On hésite de fermer définitivement une option clairement interdite par Dieu. Non, jamais, ça, ce n'est pas une option. Si on garde cette espérance, ça nous donne un signe qu'on a un peu de la duplicité dans nos cœurs. Dans la sphère politique, bon, la définition du mariage, peut-être on peut dire qu'un homme peut se marier avec un homme. La justice, peut-être c'est OK d'avoir un peu d'injustice, on peut l'accepter. Non, on ne peut pas. la compassion pour les pauvres, l'avortement. Est-ce qu'on garde toujours cette idée? Peut-être l'avortement, c'est OK. C'est pas OK. On ne peut pas accepter ces choses dans la vie de politique. Hein? L'honnêteté, peut-être parce qu'on aime plutôt ce côté, gauche ou droite, on peut accepter un peu le fait que cet homme n'est pas honnête. Bon, on ne peut pas agir comme ça. La sphère professionnelle, un compromis de conviction. Donc, je sais ce que je dis, mais j'hésite de fermer la porte sur cette option parce que, tu sais, dans le monde d'affaires, il faut parfois mentir. Parfois, il faut cacher des choses. Parfois, il ne faut pas dire que bon, tu es un chrétien. Il ne faut pas dire ça. La sphère religieuse, parfois, nous hésitons de fermer la porte sur une option doctrinale parce que ce n'est pas très, très populaire. Peut-être on peut changer les doctrines pour être populaire. La sphère de divertissement, hein, des types de livres, de films, de musique, des lieux on fréquente, des combien de temps on dépense dans nos loisirs, etc. Si nous hésitons de fermer définitivement une option clairement interdite par Dieu, ça révèle que nous ne sommes pas simples dans nos cœurs. On n'a pas l'amour simple pour Dieu et pour lui-même seul. B. La prise interne d'un désir contre la claire volonté de Dieu. C'est-à-dire, d'accord, je vais faire ce que Dieu dit. Et ce que l'Église exige, mais franchement, je ne suis pas content. Je garde toujours mon désir. Et si j'ai l'occasion, je vais le faire. Ça révèle un manque de simplicité dans nos vies. Et on n'a pas le temps pour faire toutes ces choses, mais troisièmement, la recherche persévérante de l'accomplissement de votre volonté. C'est-à-dire, hein, Balaam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché partout pour un moyen de faire ce qu'il voulait, maudire Israël afin d'avoir l'argent. Et à la fin, il a trouvé un moyen. Il ne peut pas maudire, donc il a dit une suggestion, hein, mais ça va marcher. Si nous trouvons dans nos cœurs que nos cœurs cherchent partout, comment je peux avoir ce que je veux, même si je sais vraiment que Dieu ne veut pas. Mais si nos cœurs cherchent ici, là-bas, ce moyen, cette façon, dans la sphère familiale, la sphère relationnelle, religieuse, morale, providentielle. Hein. J'ai pensé providentielle parce que souvent, Dieu, il envoie dans nos vies des souffrances, n'est-ce pas? Et on cherche partout pour une façon de s'échapper aux souffrances, même si Dieu veut qu'on souffre pour un temps. Et il faut de la sagesse, je sais, mais si on ne peut pas accepter la souffrance, une relation difficile, des chefs qui sont difficiles, des situations qui sont difficiles. Si on ne peut pas accepter ça, comme ça peut venir de Dieu, ça révèle peut-être le fait qu'on n'a pas de la simplicité dans nos cœurs. On cherche peut-être la volonté de Dieu, mais surtout notre volonté. Et quatrièmement, l'action qui bafoue la claire volonté de Dieu. Et ça arrive normalement, à la fin, n'est-ce pas? On essaie d'être chrétien et aussi de faire notre volonté. On essaie de rester, de garder notre réputation, surtout, je pense. Et ça s'est arrivé avec un ami. Il était un homme très... Bon, il avait une bonne réputation, il travaillait bien, il avait sa famille. Et tout d'un coup, il a dit, bon... je vais divorcer ma femme. Je vais quitter mes 4 enfants parce que je veux me marier avec une autre femme. Et on a dit non, la Bible est claire. Il n'y a pas une question ici, d'accord? Tu dois rester avec ta femme et ta famille. Tu dois te repentir. Il a dit non. Et il s'est quitté. Il a quitté la famille. Mais ça, c'est arrivé à la fin. Il y avait avant cet événement, il y avait toutes ces autres choses. Il a gardé dans son cœur son propre désir, même s'il savait ce que je dis. Dieu, je sais que tu dis que je dois aimer ma femme et rester avec elle, être fidèle. Mais quand même, j'ai mon propre désir. Il a hésité de fermer la porte. Dire non, jamais, c'est pas possible. Et à la fin, il a bafoué la claire volonté de Dieu. Ça peut arriver. Et ça, c'est ce qui est arrivé dans la vie de Balaam. Voilà. Ça, c'est pas exactement un encouragement. Sauf. D'accord? Il y avait un homme qui a vécu sa vie entière dans la simplicité. C'était qui? Bon, tu le connais, vous le connaissez, hein? C'est qui? C'est Jésus. Et il nous donne un exemple, d'accord? Mais parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Comment puis-je rendre gloire au Père dans cette situation? Chaque situation de sa vie, il pensait... Comment je peux donner la gloire à mon Père? Il cherchait toujours la gloire du Père. Dans cette situation, dans chaque domaine, dans chaque situation, dans chaque domaine de sa vie, il a cherché la gloire de Dieu, le Père. Et il a posé aussi la question, comment puis-je plaire au Père dans cette situation? Parce qu'est-ce qu'il a dit? Je fais toujours ce qui plaît au Père. Ce n'était pas une question de, est-ce que c'est légal ou illégal? C'est OK, c'est pas OK? Les gens, ils vont penser quoi de moi? Il a dit non. Il n'y a qu'une seule question. Est-ce que je peux plaire au Père ou non? Et ça rend les choses très, très bon, simples, on peut dire. Très, très simples. D'accord. Et pour nous, ce soir, moi, je suis plutôt comme Balaam que comme Jésus. D'accord. J'ai une vie qui est très souvent compliquée par le fait que j'ai mes propres désirs. Et je lutte contre le désir du Père. Et ça rend compliqué la vie de ma famille, la vie de l'Église, la vie avec mes voisins, la vie interne. Et moi, j'ai besoin d'un sauveur qui n'a jamais eu même une minute de duplicité. Il était toujours fixé sur la volonté du Père, la gloire du Père. Et pour moi, ça, c'est une grande, grande consolation. Ce soir, je peux dire dans mes prières, merci Jésus pour ta vie parfaite. Mais je peux apprendre quelque chose aussi. Hein? Je dois poser des questions. Dieu, aide-moi de poser ces questions. Comment puis-je rendre gloire à toi dans chaque situation? Quels sont les passages de la Bible qui m'instruisent, qui m'apprennent? Comment je peux te plaire, mon Père? Et ce soir, je pense qu'on peut prier ces choses en toute honnêteté, en disant, Père, nous sommes faibles, nous confessons la duplicité dans nos cœurs, nous voulons la simplicité. Et aide-nous de savoir dans tous ces domaines différents comment pouvons-nous rendre gloire à toi? Comment pouvons-nous te plaire? Ce sont nos désirs. Donc, bon, ma suggestion, c'est pendant notre temps de prière, que nous prions ce genre de choses pour nous-mêmes et pour d'autres personnes. Et ce soir, si vous n'êtes pas un chrétien, vous dites, hein, il n'y a pas de simplicité dans mon cœur. Je suis vraiment une personne qui veut avoir mon propre volonté, ma propre volonté. D'accord. Je comprends. Je comprends. Mais ce que Dieu dit, c'est repentez-vous et croyez-vous en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est parfait. Et en lui, le Père vous voit comme vous êtes parfait aussi, si vous croyez en Jésus-Christ. Est-ce que nous avons des requêtes de prière avant de prier?